Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile que nous venons d'entendre ne détonne-t-il pas un peu au milieu des austérités du carême ? Pourquoi l'Église nous propose-t-elle cette lumière, cette gloire de la transfiguration, alors que par ailleurs elle appelle plutôt à la mortification, la pénitence et le chemin de croix à la suite de notre Sauveur? Pourquoi donc a-t-elle voulu placer au deuxième dimanche de carême cet évangile de la transfiguration, alors qu'elle nous fait déjà célébrer la fête de la transfiguration un autre jour de l'année, au mois d'août? Si je posais la question à l'un d'entre vous, peut-être qu'il me dirait que, précisément, Moïse et Élie, qui viennent entourer notre Seigneur et comme lui rendre témoignage, ont tous les deux accompli un jeûne parfait de 40 jours, et qu'ils peuvent donc à bon droit venir nous encourager durant la sainte quarantaine. Un autre d'entre vous, a encore dans l'oreille la dernière phrase et surtout le dernier mot de l'évangile que nous venons d'entendre. « Donec filius hominis a mortuis resurgat » jusqu'à ce que le Fils de l'homme des morts ressuscite. Et la transfiguration est bien présentée comme une annonce, une anticipation de la résurrection. Et donc, vous pourriez dire que c'est pour cela que l'Église nous la met sous les yeux maintenant, pour bien nous encourager à préparer la fête de Pâques. Et mes frères, si telle est la réponse qui vous vient à l'esprit, vous n'avez pas tort. Mais on peut sans doute aller plus loin et voir dans cet évangile un encouragement à une des œuvres les plus importantes du carême, avec le jeûne, l'aumône, le combat spirituel, un encouragement à la prière, à la contemplation. Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est une ascension de l'âme vers Dieu. On a déjà entendu deux fois au cours de cette messe, « Ate levavi animam meam », vers vous, je élevais mon âme. Or, c'est précisément à cette ascension que Jésus invite Pierre, Jacques et Jean. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Quel était donc le but de cette escalade ? Est-ce que c'était uniquement d'admirer le paysage ? Évidemment non. Dès qu'on connaît un peu les habitudes de notre Seigneur, ce but est assez évident. Il s'agissait d'aller prier. Notre Seigneur avait coutume, souvent dans la journée, mais particulièrement le soir et la nuit, de s'écarter des hommes et même de ses disciples pour se donner entièrement à son Père. Là, dans la solitude, loin des préoccupations du monde, et même quand c'était possible, un peu en hauteur, pour manifester de façon sensible et corporelle ce dégagement des affaires terrestres et cette élévation de l'âme, là, Jésus passait de longues heures dans le silence à louer son Père et à jouir de sa présence. Alors, bien sûr, notre Seigneur était toujours en présence de son Père. À chaque instant, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quelle que soit l'agitation qui l'entourait, il avait cette intention d'honorer son Père. Il était en présence de lui et il voulait tout faire pour sa gloire. Et pendant toute sa vie, lui le premier, il a pratiqué la consigne qu'il nous a donnée. Il faut toujours prier. Mais pourtant, même s'il était Dieu, notre Seigneur était aussi vraiment homme. Il avait donc, comme nous, une imagination limitée qui ne peut s'occuper de beaucoup de choses à la fois, et une intelligence humaine qui est liée à cette imagination et qui, comme la nôtre, progressait de façon discursive et progressive. Donc, par la fine pointe de l'âme, dans son intelligence, dans sa volonté, il avait toujours la présence de Dieu, il avait même la vision de Dieu, et de ce point de vue-là, il était toujours en prière, mais il ne pouvait toujours s'y abandonner totalement. Et souvent, il devait attendre la nuit pour pouvoir enfin laisser toute sa nature humaine, aussi bien l'imagination, la sensibilité, l'intelligence, la volonté, tout entière, s'adonner totalement à la louange du Père. Évidemment, cette prière, ce rendez-vous intime avec les autres personnes divines, c'était l'essentiel de la vie de notre Seigneur. Même si, pendant 3 ans, il a aussi exercé une activité publique pour fonder son Église et manifester sa charité envers les hommes, mais le plus important était toujours la prière. Aussi, c'est pour nous aider à mieux prier pendant le carême que la Sainte Liturgie nous propose aujourd'hui, après l'évangile sur le jeûne dimanche dernier, cet évangile sur la prière et la transfiguration. Notre Seigneur entraîne donc Pierre, Jacques et Jean à prier avec lui. Et c'est pour cela d'abord qu'il les emmène sur cette montagne, non pas pour être transfigurés, mais pour prier. Loin d'être l'essentiel, la transfiguration n'est que la manifestation extérieure, aux yeux des apôtres, de ce qui existe déjà à l'intérieur de notre Seigneur qui est Dieu et qui a donc déjà dans son âme toute la gloire divine, et puis aussi ce qui existe à l'intérieur de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière ? Et si nous voulons, d'après cet épisode, comprendre la prière de notre Seigneur et comprendre quels en sont les effets, la première chose que nous découvrons, c'est que pour Jésus, la prière n'était pas seulement un rendez-vous divin, un rendez-vous avec son Père, avec le Saint-Esprit, c'est aussi un rendez-vous avec les saints personnages de l'Ancien Testament, et notamment avec Moïse et Élie. Autrement dit, bien que notre Seigneur soit fils de Dieu, et donc directement de plein pied avec son Père, sans avoir besoin des intermédiaires que Dieu s'était choisi pour communiquer avec son peuple, pour leur donner sa loi par Moïse ou ses enseignements par les prophètes. Malgré cela, Jésus ne méprise aucunement ces révélations encore imparfaites qui avaient été faites à ses pères et qu'il est appelé non pas à renverser, mais à venir perfectionner. Et de fait, dans sa prière, Jésus a voulu s'appuyer sur l'Ancien Testament, s'appuyer sur les psaumes, sur la loi de Moïse, sur l'enseignement des prophètes, non parce qu'il en aurait eu besoin, de soi il n'en avait aucun besoin, mais parce que cela faisait partie du plan divin et qu'il voulait nous donner l'exemple. Voilà donc une première leçon pour notre vie de prière pendant ce carême que nous pouvons tirer de cet évangile. C'est la nécessité que nous avons de la Sainte Écriture et aussi de la liturgie qui vient venir nous distribuer la Sainte Écriture, puisque vous savez qu'il y a pendant tout le carême une messe chaque jour, une messe propre qui va nous donner un enseignement tiré de l'Ancien Testament et un enseignement tiré du Nouveau Testament, dans l'Évangile. Donc, première résolution que nous pouvons prendre, pour bien prier pendant ce carême, appuyons-nous au moins sur la liturgie et sur l'Écriture sainte. On peut aussi remarquer, et pour en tirer une deuxième leçon, l'attitude des apôtres qui doivent faire un effort pour rentrer dans cette prière. Il faut vraiment que notre Seigneur les entraîne et on aura le même épisode lorsque les mêmes apôtres seront entraînés par notre Seigneur pour cette autre prière solennelle du soir du jeudi saint lors de l'agonie. Un autre exemple de la difficulté qu'ont les apôtres, même ceux qui ont été choisis par notre Seigneur, à entrer ainsi en intimité avec Dieu et à pénétrer dans cette prière. Mais une fois qu'ils y sont, immédiatement, ils découvrent une grande joie, une grande paix et ils voudraient y rester. Saint Pierre déclare, ah, nous sommes bien ici. On pourrait faire trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Et ça correspond certainement à notre expérience. Pour rentrer dans la vie de prière, pour à chaque fois, il faut faire un effort. Mais une fois qu'on y est, on sent une telle consolation, une telle paix qu'on aimerait bien y rester. Mais on ne peut pas y rester ici-bas. On est obligé de redescendre dans les préoccupations quotidiennes et parce que ça fait partie de notre lot sur cette terre. Donc, la joie, mais aussi la crainte, la vraie prière va nous faire, nous donner une certaine crainte de Dieu, non pas la crainte servile qui nous fait craindre l'enfer, mais la crainte respectueuse. Et nous voyons chez les apôtres ces deux effets de la prière, la crainte, ils se prosternent face contre terre, et puis la paix, la joie, le bonheur. Troisième leçon qu'on peut tirer de cet évangile sur notre vie de prière, c'est l'importance de la foi. Nous prions sans voir, c'est l'état ici-bas, nous ne voyons pas Dieu, nous communiquons avec lui comme à travers une nuée. C'est cette nuée dans laquelle Dieu se manifeste, une nuée, mais une nuée qui est lumineuse. Donc, quand on parle de nuée, on parle de quelque chose qui empêche de bien voir, qui rend tout flou, qui vient brouiller la vue. Mais en même temps, il y a une lumière qui nous est donnée. Et c'est exactement l'état de la foi ici-bas. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous sentons qu'il y a une lumière qui nous est donnée. Et nous entendons la voix de Dieu. La foi vient par l'oreille, dit saint Paul, c'est-à-dire nous ne voyons pas, mais nous entendons les enseignements de Dieu, fides ex auditu, et nous y correspondons. Et que nous dit le Père ? Il nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, vous ne voyez pas tout ce qu'il vous dit, mais écoutez-le, suivez ses enseignements. Enfin, quatrième leçon, le lien qu'il y a entre cette prière à laquelle notre Seigneur a invité les trois apôtres et l'épreuve qui va venir, et notamment l'épreuve de la croix. Jésus a choisi trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour l'accompagner dans la prière, cette prière glorieuse, parce qu'il sait que les mêmes seront appelés ensuite à l'accompagner dans son agonie. Et il en va de même dans nos vies. Nous avons des épreuves à traverser, et le bon Dieu, avant que nous arrivions à ces épreuves, va nous inviter à certains moments à prier. Il va nous faire sentir le besoin de prier, ou bien mettre sur notre route des gens ou des événements qui vont nous encourager à prier, et là, à nous d'accepter d'entrer dans la prière ou non. Si nous acceptons de le faire, si nous faisons cet effort, nous recevrons la force, la lumière pour traverser les épreuves qui viendront ensuite. Si nous ne savons pas faire cet effort, nous serons démunis quand arrivera l'épreuve. Et le temps du carême est un temps durant lequel Dieu va nous pousser, nous attirer à la prière. Si nous savons répondre à cet appel, nous recevrons les grâces dont nous aurons besoin ensuite pour telle et telle épreuve qui arriveront dans notre vie. Si nous faisons la sourde oreille, nous risquons d'être comme les apôtres qui ont été démunis au moment de la passion et qui se sont enfuis. Donc, profitons bien de ces enseignements qui nous sont donnés aujourd'hui dans cet évangile de la Transfiguration. Prenons la résolution de donner un temps au bon Dieu, un temps où nous nous écartons du monde, un temps où nous lisons la Sainte Écriture ou bien la liturgie, ou bien un livre dont nous savons qu'il va nous aider à nous élever vers le bon Dieu, un temps où nous méditons et où nous louons le Père et nous lui demandons son aide pour traverser les épreuves qui forcément ne manqueront pas durant notre vie. Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à bien prendre et suivre ses résolutions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.